Nous sommes un tout petit peu en retard. Et donc, après vous avoir remercié, je demanderai à Monsieur Le Bihan et Madame Tiercelin de bien vouloir nous exposer quels ont été les projets, les progrès et quelles sont les disciplines touchant les sciences cognitives qui sont l'une des grandes bénéficiaires des grands équipements et de l'informatique. Et comme tout ce qui touche au cerveau touche aussi à la métaphysique, j'ai demandé à notre nouvelle collègue, Madame Tiercelin, qui a été élue professeure au Collège de France très récemment, de bien vouloir apporter son point de vue. Monsieur Le Bihan, je vous en prie.
Merci beaucoup pour l'introduction et aussi pour m'avoir invité à parler aujourd'hui. Donc effectivement, je vais essayer de vous montrer comment les grands instruments de physique ont pénétré le domaine, alors pas uniquement des sciences cognitives, mais des neurosciences en général. Pour reprendre globalement ce qu'on cherche à faire pour comprendre le fonctionnement du cerveau, je pense qu'on peut décliner trois niveaux. Le niveau de l'organe, comment est-ce que fonctionne le cerveau, comment est-ce qu'il est conçu, de façon à ce qu'on puisse penser finalement. D'autre part, le cerveau malheureusement se détraque, et comment est-ce que ces troubles du fonctionnement cérébral peuvent être appréhendés pour mieux les comprendre et bien sûr mieux les soigner. Et cela a déjà été dit, mais les domaines qui sont malheureusement peu compris aujourd'hui encore, c'est comment le cerveau se développe, comment est-ce qu'il vieillit, comment est-ce qu'on peut arriver à le reprogrammer pour retrouver des fonctions qui ont été perdues. Et puis il y a tout ce qu'on appelle les désordres de l'humeur, pour un gentil mot, pour parler des problèmes psychiatriques à différents degrés. Et puis le dernier niveau, le niveau social, le niveau d'interaction entre nous, donc l'éducation, l'art, l'interface entre l'homme et ses machines. Donc tout ceci est bien sûr quelque chose qui devrait bénéficier de notre compréhension du cerveau. Alors vous savez bien sûr que le cerveau est organisé en régions, et je fais exprès de rappeler ces notions de base pour vous montrer comment la physique est entrée en jeu. Donc le cerveau, c'est un organe relativement gros, un peu plus d'un kilo, qui est très, très compliqué en forme. Et comme vous le savez sans doute, c'est un Français, le chirurgien Paul Broca, qui est à l'origine du concept que le cerveau est organisé en régions, la région du langage, qui est donc le porte-nom d'air de Broca, bien que ce soit beaucoup plus compliqué que cela, et aussi que l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit ont des rôles différents. Donc pendant de très nombreuses années, de Broca jusque dans les années 70 du siècle dernier, on a appris le fonctionnement du cerveau en le disséquant, c'est-à-dire donc en ayant des patients qui avaient une perte de fonction, et l'objet de la recherche était d'obtenir le cerveau du malade. À l'époque, c'était relativement facile, malheureusement, puisque beaucoup de patients décédaient, pour arriver à faire une corrélation entre l'endroit où se trouvait la lésion et la perte de fonction. Et c'est là donc que la physique a joué un rôle considérable, d'abord avec la découverte des rayons X, qui a permis l'invention du scanner, et puisqu'il y avait un exposé sur l'informatique, je rappelle que c'est l'informatique qui a permis au scanner d'exister. Les rayons X étaient découverts beaucoup plus tôt, et c'est le couplage de l'informatique et de la radiologie, si je peux être bref, qui a permis de faire des images virtuelles donc, du cerveau. Voilà une coupe de cerveau avec une tumeur. L'image est relativement floue par rapport à ce qu'on sait faire aujourd'hui, mais c'est une révolution à l'époque. On n'avait plus besoin de disséquer le cerveau. On pouvait voir en temps réel l'endroit de la lésion et éventuellement le trouble fonctionnel associé. L'IRM, ce qu'on ne sait pas bien, c'est qu'elle a été inventée à peu près en même temps que le scanner à rayons X. Le papier Princeps date de 1973, mais a pris beaucoup plus de retard au décollage, si j'ose dire, pour différentes raisons. D'abord parce qu'il y avait le scanner à rayons X, et ensuite parce que c'était un instrument qui est plus délicat à mettre en place, et puis il y a eu des raisons bien sûr économiques. Donc, le grand progrès, ça n'a plus été de voir la lésion responsable d'une perte fonctionnelle, le grand progrès, ça a été de pouvoir le cerveau fonctionner dans un état normal. Alors, beaucoup de recherches également ont été permises grâce aux travaux du chirurgien Pinfeld, donc ceci, c'est comique, mais c'est à peu près la réalité. Donc, au bloc opératoire, on peut réveiller un patient, toucher, entre guillemets, à un endroit du cerveau et voir quelle est la conséquence. Donc on a appris beaucoup de choses comme ça, mais ça reste quand même invasif. Même si on peut regarder des régions qui sont relativement saines dans le cerveau, si le malade est opéré, c'est quelque chose qui ne va pas quelque part, j'ose espérer. Donc, ce qui est nouveau, avec l'IRM en particulier, mais pas seulement, c'est qu'on est capable maintenant de mettre un sujet normal dans un instrument de physique d'imagerie et de voir quelles sont les régions cérébrales qui participent à un paradigme particulier. Donc c'est une révolution culturelle, je pense, qui a été permise grâce aux instruments de physique. Et notre objectif, finalement, quand on fait de la neuroimagerie, c'est d'étudier l'architecture fonctionnelle cérébrale, comment est-ce que la localisation est liée à la fonction, mais, comme je vais vous le montrer, à plein de différents niveaux. Alors, on dispose d'une panoplie d'outils, la physique qui nous a vraiment aidés. Donc, on peut, par exemple, enregistrer les signaux électriques qui sont produits par le cerveau quand il fonctionne. Et qui dit signaux électriques dit signaux magnétiques, hein, les équations de Maxwell. Et donc la magnétoencéphalographie en particulier permet de faire des sortes d'images qui montrent la façon dont les différentes régions cérébrales travaillent entre elles. On peut regarder également la chimie du cerveau, la neurochimie, les neuromédiateurs, en les marquant de façon radioactive grâce à un cyclotron et en détectant cette radioactivité grâce à une caméra à émission de positons. On peut utiliser l'imagerie optique, mais aujourd'hui, je vais vous parler principalement d'imagerie par résonance magnétique pour deux raisons. D'abord, parce que c'est ce que j'utilise, et deuxièmement, parce que c'est en soi c'est multimodal, puisqu'on peut voir la structure du cerveau, son fonctionnement, mais également adresser ce qu'on appelle l'imagerie moléculaire, c'est-à-dire le fonctionnement au niveau moléculaire du fonctionnement neuronal. Alors, je vais aller très vite, hein, je ne tiens pas à faire un exposé de physique, juste pour vous sensibiliser à ce qu'apporte l'instrument de physique, finalement, à la connaissance du fonctionnement cérébral. Déjà, on va placer le cerveau dans un champ magnétique très intense. Là, un aimant tout à fait banal, hein, qu'on trouve dans la plupart des hôpitaux aujourd'hui, un aimant qui fonctionne à 1,5 Tesla, ce qui représente 30 000 fois le champ magnétique terrestre. Vous verrez tout à l'heure qu'on est en train de dépasser cela. Tout simplement, pourquoi ? Je passe sur les lois de la physique. Pour arriver à aimanter la matière vivante, eh bien, il faut effectivement des champs magnétiques très très élevés. Alors la molécule qui est de loin la plus utilisée pour faire nos images, c'est l'eau. Donc tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui concerne l'aimantation de l'eau. On va aimanter plus précisément le noyau d'hydrogène de la molécule d'eau. Je vous rappelle quand même que dans le cerveau, 9 molécules sur 10, c'est de l'eau, donc c'est quand même important. Et grâce à cette aimantation de l'eau, et la manipulation de l'aimantation par des ondes radio, qui sont les ondes radio tout à fait standards, on va pouvoir obtenir des images extraordinaires. Voilà une coupe de cerveau, telle qu'on l'a pratiquée autrefois, où vous voyez donc la matière blanche cérébrale, la matière grise, donc qui contient les neurones, qui tapissent le cerveau. Donc ça, c'est un cadavre, et ça, c'est un collègue vivant. Donc vous voyez que l'image est presque meilleure par IRM, on voit beaucoup plus de choses, ne serait-ce que parce que le cerveau est intact dans la boîte crânienne. Donc on y voit également le contraste entre la matière blanche et la matière grise. Ce contraste est lié au fait que l'aimantation de l'eau n'est pas la même dans la matière blanche et grise. Pourquoi ? Personne ne sait. On n'a aucun modèle physique pour nous prédire pourquoi l'aimantation est différente, mais les radiologues finalement ne se posent pas la question. Ils voient une différence, et puis s'il y a une lésion, ils la verront également. Donc, mais le physicien, lui, se posera toujours cette question et essaiera d'aider le neuroscientifique ou le radiologue dans le domaine médical pour essayer de trouver des contrastes nouveaux. Donc voilà, par exemple, une image IRM donc sagittale qui passe par le milieu du crâne, où on voit donc la langue, le nez, le tronc cérébral. Mais là encore, l'informatique est considérablement importante pour nous, puisque la plupart des structures commence à être vue de façon un peu artificielle. On ne les voit pas à l'œil nu, il faut les reconnaître. Donc, grâce à des logiciels, on est capable maintenant d'identifier un certain nombre de structures, de les mesurer, de les calibrer. Et la physique nous permet même d'aller beaucoup plus loin dans la résolution spatiale, des images qui font quelques centaines de microns de l'oreille interne, dans la résolution temporelle. Donc, voilà ce qui va se passer quand vous aurez fini de déjeuner. Donc, mouvement au niveau de l'intestin. On voit également la respiration, le mouvement cardiaque. Bon, c'est un peu accéléré, mais juste pour vous montrer. Et, par exemple, on peut voir de façon magnifique les arborescences vasculaires qui vont dans le cerveau. Donc, tout ça, c'est ce qui se pratique aujourd'hui en routine à l'hôpital. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est vers où on va. Alors, on peut étudier le cerveau, mais encore une fois, ce qu'on oublie souvent, c'est de penser que ce qu'on va voir avec nos images, ce n'est pas le cerveau vraiment. Voilà un vrai cerveau, mais il est mort. Donc, ce que nous, on voit, ce sont des images de cerveau vivant, mais ces images représentent l'aimantation de l'eau du cerveau. Donc, ce sont des images virtuelles de l'aimantation de l'eau. J'insiste là-dessus parce qu'il ne faut pas toujours, ce n'est pas toujours facile en tout cas, de passer de cette image virtuelle qui peut présenter certains défauts de fabrication et la réalité. Alors, grâce à ces images, on peut voir, par exemple, que le cerveau il est constitué de grands nombres de replis, des sillons, etc., mais qu'en fait, il y a certainement des raisons génétiques qui font que tout le monde a un cerveau qui a à peu près la même forme. Mais sur le plan pratique, vous voyez que ce sillon rouge qui est ici, en fait, varie grandement d'une personne à l'autre. Ici, on a moyenné 50 cerveaux. C'est un travail de Jean-François Mangin chez nous. Donc, 50 cerveaux, et vous voyez qu'il y a des différences majeures dans ces structures. Pourquoi ? Ça nous indirecte bougrement, puisque on voudrait comprendre quels sont les liens entre les gènes qui sont responsables de l'organisation cérébrale et l'environnement. Donc, en particulier, comment est-ce que le cerveau se plisse ? Vous savez que le cerveau se construit à partir d'un tube central. Les neurones vont migrer à la périphérie du cerveau, parfois c'est source de pathologie. Et donc, le cerveau va de plus en plus se plisser au cours de la grossesse. Donc ça, ce sont des images qui ont été obtenues par Jessica Dubois et notre collaboration avec Petra Huppi à Lausanne, qui montrent par exemple qu'à 30 semaines de grossesse, donc des jumeaux ont un cerveau qui est moins plissé que des bébés qui sont tout seuls. Ce n'est pas pathologique, c'est simplement qu'ils se partagent un petit peu les choses pendant qu'ils sont ensemble, et donc il y a un retard qui va apparaître, mais qui est tout à fait normal. On sait aussi que ce cerveau donc, se développe au cours de la grossesse, mais continue à se développer toute notre vie. Je pars à Londres juste après ma présentation, et ça tombe bien, puisque à Londres, il a été montré que les chauffeurs de taxi avaient l'hippocampe, donc cette petite région qui est à la base du cerveau, qui sert à la mémoire, était hypertrophiée. Donc en fait, c'est parce qu'ils l'utilisent comme GPS, les chauffeurs de taxi londoniens sont considérés comme excellents, connaissent parfaitement toutes les petites routes, et donc ils ont développé leur hippocampe. Ça leur a pris peut-être plusieurs années. Et si vous prenez quelqu'un et vous lui demandez de jongler un peu tous les jours pendant quelques minutes, eh bien vous apercevez que certaines régions cérébrales vont s'hypertrophier rapidement. Ici, donc, ce sont les régions qui détectent le mouvement, donc pour pouvoir jongler. Tout ça pour dire donc, que cette anatomie du cerveau, elle est extrêmement plastique et qu'elle est modifiable en fonction de ce qu'on fait avec notre cerveau, finalement. Depuis 25 ans, parce qu'on parlait d'innovation, c'est tout à fait exact, il faut beaucoup de temps entre l'idée de départ et puis finalement à quoi ça va servir. Donc quand j'ai développé l'imagerie de diffusion, c'était en 1985, l'imagerie donc, du mouvement moléculaire des molécules d'eau dans le cerveau, mouvement brownien, eh bien, je ne pensais pas qu'on arriverait à obtenir des images extraordinaires comme celle-là, qui sont l'étude du mouvement brownien de l'eau dans le cerveau. Il se trouve que les câbles qui relient les régions cérébrales, ce qu'on appelle la matière blanche, faite donc d'axones, de tubes, eh bien, rendent le mouvement de diffusion de l'eau anisotrope. Dans le sens perpendiculaire aux fibres, l'eau diffuse moins vite que dans le sens des fibres. Ce n'est pas si simple, la raison exacte n'est pas encore totalement claire, mais peu importe. Donc il suffit de mesurer le mouvement de diffusion de l'eau dans un très grand nombre de directions pour reconstituer ce câblage intracérébral. On a donc des images magnifiques pour la première fois, et là, même en disant qu'on a un cerveau, vous ne pouvez pas voir ce genre d'image. Donc là, on a quelque chose de nouveau, où la physique, le mouvement brownien, détecté par l'IRM, est associé à l'informatique, donc la reconstitution du trajet des fibres, et on peut faire des images extraordinaires donc du câblage intracérébral grâce à cette méthode. Il y a un petit film, mais il ne veut pas passer, donc il faut que je clique dessus, tout simplement. Voilà. Donc, on parlait de l'importance de l'informatique. L'informatique, ce n'est pas uniquement un gadget pour visualiser un certain nombre de choses. Pour nous, c'est quelque chose de fondamental. Sans ces outils informatiques, on n'aurait jamais pu avoir ce genre d'image. On voit des choses nouvelles. On ne savait pas que le cerveau était constitué de cette manière-là, précisément. Alors, depuis, tout ça s'est utilisé dans le monde entier. Et, par exemple, une équipe de Lausanne a montré que le cerveau était organisé un peu comme les cartes d'aéroport que vous voyez dans les avions, avec des hubs, donc des connexions entre différentes régions cérébrales. Et on s'attaque aujourd'hui donc à ce qu'on appelle le Human Brain Connectome, essayer, donc quelque chose qui a été financé à hauteur de 30 millions de dollars aux États-Unis, pouvoir faire la carte des connexions du cerveau humain. Alors tout ça, c'est l'anatomie du cerveau, mais bien sûr, maintenant, on s'intéresse également au cerveau qui fonctionne, comme je vous l'ai dit. Le paradigme qui est utilisé pour l'instant, puisque je travaille sur une voie alternative, mais celle-ci est utilisée largement aujourd'hui dans le monde, consiste à faire des images du cerveau en considérant que dans chaque région qui est active, il y a une augmentation du débit sanguin. Il y a un peu plus de sang qui arrive localement. Et comme vous le savez, le sang est rouge parce qu'il y a des globules rouges, et les globules rouges sont rouges parce qu'il y a des hémoglobines dans les globules rouges. Et cette hémoglobine contient du fer. Alors fer, aimant, vous comprenez tout de suite qu'il va y avoir des effets d'interaction. Bon, je passe très vite pour dire simplement qu'il faut considérer que les globules rouges qui circulent dans les petits vaisseaux sanguins, on peut les considérer comme des petits aimants qui vont changer localement l'aimantation des molécules d'eau qui sont en train de diffuser autour. Donc cette méthode que M. Ogawa donc, a appelée la méthode BOLD, pour Blood Oxygen Level Dependent, c'est-à-dire le contraste lié à la présence de sang oxygéné dans le cerveau, permet de faire des images extraordinaires. Donc quand vous êtes en train de regarder cet écran, eh bien, si vous étiez dans un aimant, vous ne l'êtes pas, le champ magnétique terrestre est trop faible, si vous étiez dans un aimant intense, eh bien, l'aimantation des molécules d'eau dans les régions visuelles serait modifiée, tout simplement parce que localement, si vous utilisez vos régions visuelles, vous allez augmenter la quantité de sang oxygéné qui arrive dans ces régions-là et donc modifier de façon infime, invisible à l'œil nu, l'aimantation des molécules d'eau qui sont là. Mais grâce encore une fois à un traitement informatique et des statistiques très robustes, on va pouvoir extraire en quel point du cerveau l'aimantation a changé et faire des cartes où on va mettre en couleur les régions activées. Donc ça, c'était une révolution également complète. Je pourrais vous parler des heures de ce qui est possible. Je vais juste vous donner deux exemples pour vous montrer vers où on va. Si vous regardez l'écran, vous activez des régions visuelles, pas de surprise, on sait tout cela. Mais si vous vous posez la question, vous fermez les yeux, vous voulez voir un chat, tout le monde peut voir un chat dans sa tête, ils sont tous différents les uns des autres, je suppose, mais est-ce que par hasard, les régions visuelles qui servent à voir le monde réel seraient aussi utilisées pour voir le monde imaginaire? Voilà une question, on fait l'expérience, c'est très simple, vous mettez quelqu'un dans notre imageur, un volontaire, vous lui dites chat, on lui donne, mettons, 6 secondes pour imaginer le chat, puis après on lui demande si le chat a les oreilles pointues, donc on doit à nouveau revoir les oreilles du chat dans sa tête pour répondre à la question. C'est pas est-ce que le chat a 4 pattes. Et là, eh bien, surprise, enfin pas surprise pour nous puisque c'est ce qu'on prévoyait, mais surprise quand même, voilà la région visuelle primaire, celle qui sert à voir le monde réel, eh bien on s'aperçoit que cette région-là est activée par l'imagerie mentale du chat. Alors, déjà ça c'est quand même très intéressant en soi, mais je reviens à la physique, puisque c'est l'objet de mon exposé. Quand vous avez pensé au chat, finalement, vous avez changé l'aimantation des molécules d'eau de votre cerveau dans les régions qui sont en train d'élaborer l'image mentale du chat. Donc vous voyez que grâce à la physique, finalement, on va révéler un certain nombre de choses qui se passent dans votre tête, mais vous, la formation donc, liée à la pensée, se voit par un changement réel, physique, au niveau du cerveau, un changement de l'aimantation des molécules d'eau. Et ce que l'on voit d'ailleurs, c'est donc que l'aimantation change quand vous imaginez le chat, mais qu'elle change encore plus quand vous imaginez que le chat a les oreilles pointues. Bon, on pourrait continuer beaucoup sur l'interprétation de ces résultats, mais juste pour vous donner quand même une idée de ce qu'est la plasticité cérébrale, un de mes collègues japonais a essayé de regarder ce qui se passe dans le cortex visuel chez des aveugles de naissance, donc ce cortex ne sert plus à voir, eh bien, quand ces gens, quand ces aveugles lisent du braille, donc avec leurs doigts, ils activent les régions visuelles. Voilà. Donc, on peut se dire que c'est la plasticité cérébrale, les aires visuelles ont été remplacées pour faire autre chose. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette interprétation, c'est celle qu'on trouve, bien sûr, en général. En fait, sans doute qu'il y a un traitement d'information très particulier dans le cortex visuel qui est, bien sûr, essentiellement utilisé pour la vision, même pour l'imagerie mentale, mais peut-être aussi pour mettre en place dans notre esprit la connexion de points dans l'espace. En gros, le binding, à savoir pour lire du braille, il faut arriver à relier des points dans l'espace. Donc peut-être, on pourrait penser que ces régions cérébrales sont activées pour cela. Alors ça va beaucoup plus loin, puisqu'on sait maintenant lire ces cartes d'activation cérébrale dans le cortex visuel. Donc, selon que je vous présente un objet horizontal ou vertical, le pattern d'activation va être différent, hein, puisqu'en gros, il faut comprendre, je simplifie à outrance, bien sûr, que sur le cortex visuel, le monde réel, et donc le monde imaginaire, sans doute, sont représentés de façon homothétique, bien qu'ils soient extrêmement déformés. Donc, selon ce que l'on va voir sur les images, on peut éventuellement lire ce que vous êtes en train de voir ou d'imaginer. Donc, voilà, par exemple, ce qui se passe quand vous imaginez, quand vous voyez, pardon, qu'un objet est horizontal et quand il est vertical. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Eh bien, on peut donc dire que quand vous imaginez, qu'on vous demande d'imaginer un objet horizontal ou vertical, eh bien, on peut regarder sur nos images que là, vous êtes en train de penser à un objet horizontal, là, vous êtes en train de penser à un objet vertical. Et Bertrand Thirion, chez nous, a montré qu'on était même capable de faire mieux encore, c'est-à-dire donc de faire imaginer des lettres par des volontaires et d'arriver, dans certaines conditions, bien sûr, à deviner par, sur les images les lettres que cette personne était en train d'imaginer. Donc, vous voyez qu'on commence quand même à être très indiscret, mais... Le but, ce n'est pas d'être indiscret, le but, c'est d'aider éventuellement des patients à s'exprimer, des gens qui ne pourraient plus. Une expérience que je trouve extraordinaire donc, au Japon, où vous voyez une personne ici en train de faire le jeu, vous savez, donc ciseaux, pierre, papier. Donc on bouge la main, soit on la met comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Eh bien, les images IRM acquises en même temps sont interprétées en temps réel et vont piloter une main artificielle, un robot, qui est en train de faire exactement la même chose que la personne qui est dans les mains. L'objectif, bien sûr, c'est de faire ça non pas en bougeant la main, imaginez quelqu'un qui est paralysé ou qui a perdu sa main, mais par la pensée, et ils y sont arrivés. Et aujourd'hui, on est, Toyota commercialise, je crois, une chaise roulante qui est pilotée par la pensée. Donc le patient, sur sa chaise, peut pense à tout droit, à gauche, à droite, en japonais peut-être, mais enfin, la chaise suit la pensée. On peut sans doute reprogrammer ça dans une autre langue. Voilà. Et puis, ce qui peut être encore plus peur, c'est qu'on s'est aperçu que des patients qui étaient inconscients, dans un certain état végétatif, finalement, avaient peut-être une conscience, alors qu'on ne le savait pas. Donc, c'est une étude qui a été publiée il y a quelques années chez une jeune femme de 26 ans qui a eu un accident de voiture, donc qui était dans un état végétatif. Et quand on lui a demandé... par exemple, bon, je simplifie pour pouvoir faire passer le message, mais comment vous appelez-vous ? Bon, il est évident qu'il n'y a aucune réponse ni rien, mais ce que l'on voit, c'est que les circuits du langage sont activés chez cette patiente de façon très similaire à ce qu'on peut observer chez quelqu'un normal. Donc cette personne est en train de répondre, mais dans sa tête, vous ne le voyez pas. Et ce qui est pire, c'est quand on lui demande d'imaginer, par exemple, qu'elle joue au tennis, donc on lui dit, pouvez-vous imaginer que vous jouez au tennis ? Bon, rien ne se passe. Mais dans sa tête, ce que l'on voit, qu'un certain nombre de régions, comme la région motrice supplémentaire, est activée de façon très similaire à ce que ferait quelqu'un qui imagine qu'il joue au tennis. De même, quand on lui demande de se promener dans sa maison, eh bien, elle active tout un réseau de régions qui sont celles utilisées chez quelqu'un normal. Donc, vous voyez, ceci ouvre vraiment de nouveaux horizons. Alors, à l'époque, c'était une patiente sur 60 qui avait cet état-là. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui était en train de se réveiller ou quelqu'un qui n'était pas complètement dans le coma ? Donc, tout ceci est un peu difficile pour l'instant à comprendre. Les tout derniers résultats faits par une équipe en Belgique montrent que 15% des patients, en fait, dans leur série, 15% ont ce genre de choses. Et ils commencent à communiquer avec ces patients en leur disant, par exemple, je vais vous poser une question. Si vous voulez répondre oui, vous imaginez que vous jouez au tennis. Si vous voulez répondre non, vous imaginez que vous êtes en train de vous promener chez vous. Et donc, en regardant nos images, on peut donc commencer à avoir un dialogue avec ces patients qui sont dans un état végétatif. Vous voyez, donc, tout ceci n'a pas été possible jusqu'à présent. L'idéal, bien sûr, ce n'est plus d'utiliser l'IRM qui est extrêmement lourde, qu'on ne peut pas mettre en milieu de réanimation, etc. Donc, c'est d'avoir des instruments plus légers et d'autres méthodes pour détecter ces signaux, mais c'est quand même grâce à l'IRM qu'on a pu arriver à cela. Donc, pour faire un peu une pause dans tout ce que je vous ai montré, voilà où on en est aujourd'hui. Et j'insiste sur le fait que si on veut comprendre le cerveau, il faut travailler à différentes échelles. On sait aujourd'hui faire la biologie moléculaire, on sait enregistrer des dizaines de neurones chez l'animal, on n'a toujours pas compris comment le cerveau fonctionne. On sait, vous avez vu, donc faire des images maintenant à une échelle de quelques millions de neurones, qui est en gros quelques millimètres cubes, c'est la résolution de nos images d'IRM standard, et on commence à avoir une bonne idée sur la façon dont le cerveau traite l'information à ce niveau. Mais, à mon avis, ça ne suffit pas. Quand on regarde... Qu'est-ce qui se passe, là ? J'ai plus la main. Oh. Ça, j'espère que ça va venir. Bon, je continue à parler, j'espère qu'il va se réveiller, qu'il n'est pas dans le coma. Voilà. Donc, le but, c'est quand même de voir quelle est l'interaction entre le programme génétique et l'environnement. Je vous ai expliqué que le cerveau est extrêmement plastique, puisque tous les jours, on le change. On a tous des cerveaux différents. Mais les gènes ont quand même un rôle, bien entendu. Donc, si on peut imaginer que les régions du langage sont là parce que des gènes sont responsables de leur présence, de leur organisation, ce n'est pas les gènes qui vont vous dire si vous allez parler français ou chinois. Il y a quelque chose d'autre. Et donc, les gènes préparent le cerveau à cette plasticité. En plus, il y a un nombre de gènes qui est limité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de combinaisons possibles. Un très grand nombre de synapses, 10 puissance 11 neurones, 10 000 synapses par neurone en moyenne. Donc, il y a un potentiel, bien sûr, pour la plasticité. Donc, qu'est-ce qui se passe là ? Bon, notre objectif est de comprendre s'il y a par hasard un code neural, comme il y a un code génétique. Le code génétique, c'est l'organisation dans l'espace de molécules pour coder de l'information et la répliquer. Eh bien, on pourrait imaginer que le fonctionnement du cerveau repose sur des interactions qui existent sur des cellules qui sont dans des clusters. Donc, encore une fois, c'est la localisation dans l'espace de ces cellules qui compte. Donc, cette organisation tridimensionnelle des cellules pourrait être responsable d'un traitement particulier de l'information qui est utile pour le langage, pour la musique, pour la vision, etc. Donc, c'est une hypothèse. Et pour cela, il faut être capable de descendre à une échelle que j'appelle l'échelle intermédiaire, c'est-à-dire donc pas l'échelle de quelques neurones, pas l'échelle de quelques millions, mais l'échelle de ces clusters que j'estime à entre 1000 et 10 000 neurones. Voilà, donc c'est ce qu'on essaye de faire, et pour cela, il nous faut les instruments, puisqu'aujourd'hui, nous sommes absolument incapables de voir cette échelle. Ou nous voyons l'échelle intracellulaire ou de quelques neurones chez l'animal, ou l'échelle macroscopique. L'objectif, bien entendu, toujours, il ne faut pas l'oublier. Je vais changer de diapositive, je crois que celle-là, elle a du mal à passer. Bon. L'objectif, c'est quand même d'essayer de comprendre les pathologies du cerveau pour pouvoir les traiter, développer des thérapies qui soient adaptées aux malades, à ses gènes et à sa maladie. Alors, l'IRM est loin d'avoir atteint ses limites. Certains disent qu'on arrive au bout, c'est une plaisanterie. En fait, il y a encore beaucoup de choses que l'on peut voir avec l'IRM sur le plan du fonctionnement cérébral. Donc je passe vite. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on veut gagner dans les signaux que l'on veut obtenir, il faut passer à des champs magnétiques plus élevés, tout simplement parce qu'il faut aimanter l'eau ou d'autres molécules de façon plus importante. Donc voilà les aimants qui existent aujourd'hui. On trouve essentiellement, je crois qu'il y a à peu près 30 000 IRM dans le monde, des aimants jusqu'à 1,5 Tesla, 30 000 fois le champ terrestre. On trouve beaucoup moins des systèmes à 3 Tesla, encore que ce soit la référence aujourd'hui pour ce qui est l'étude du cerveau. Et on trouve de moins en moins, plus on va monter en champ, plus c'est rare, des aimants qui fonctionnent à 7 Tesla, 140 000 fois le champ terrestre. Donc en France, à Neurospin, nous sommes les premiers à en avoir un. Aimant à 9,4. Et puisqu'on parle d'innovation, eh bien le but, c'est ça, c'est d'arriver à voir mieux ce que l'on voit mal aujourd'hui. Par exemple, vous voyez l'hippocampe, cette structure qui est augmentée chez les chauffeurs taxis londoniens, mais par contre qui est franchement diminuée chez les patients atteints d'un maladie d'Alzheimer. Donc, on voudrait la voir, parce qu'on sait aujourd'hui que la maladie d'Alzheimer commence dans une région bien précise de l'hippocampe. On voudrait voir les plaques dans l'hippocampe, et il nous faut atteindre cette résolution. Donc, vous voyez que l'idée, c'est, grâce au champ magnétique élevé, de mieux voir ce qu'on voit mal aujourd'hui, mais j'ose espérer découvrir des choses qu'on ne sait pas exister aujourd'hui. Arriver à détecter une organisation du cerveau à cette fameuse échelle méso-intermédiaire. Alors tout ceci coûte malheureusement beaucoup, beaucoup d'argent, mais on n'a pas le choix. Donc l'idée, c'est de regrouper en un lieu les chercheurs pour développer ces concepts, donc développer de nouveaux instruments, comme l'IRM à très haut champ. Quand le microscope a été inventé, je ne pense pas qu'on avait programmé ce qu'on verrait au microscope, de même pour la lunette de Galilée. Il faut des modèles je pense que la science sans modèle ne va pas loin. Donc il faut des théories, des modèles que l'on va tester. Et puis, il faut être capable de tester ces modèles avec la réalité. Donc, et cette réalité, il faut la décliner sur l'ensemble du spectre animal, à savoir donc de la souris pour laquelle on peut manipuler les gènes, jusqu'à l'homme, en tenant compte du développement cérébral, donc du bébé, en passant par le primate, où on peut se permettre des mesures très voisines de ce que l'on fait chez l'homme, mais en même temps être un peu plus invasif. C'est pour ça qu'à Neurospin, on est parti donc sur l'idée de construire des instruments peut-être un peu futuristes, mais qui sont très très importants pour nous. Donc des instruments comme je vous ai mentionné, mais nous sommes en train de construire un aimant de 11,7 Tesla grâce au savoir-faire du CEA, hein, les gens qui fabriquent des aimants pour le CERN, en particulier à Genève, le LHC. Donc un aimant de 11,7 Tesla, 230 000 fois le champ magnétique terrestre, qui sera le premier au monde, qui sera livré dans 2 ans. Et nous venons juste d'obtenir un aimant de 17 Tesla, donc 340 000 fois le champ terrestre, pour l'étude de l'animal. Et j'ajoute, pour terminer et pour faire le lien avec l'exposé précédent, que pour nous, il n'y a pas de frontière entre recherche fondamentale et recherche appliquée, et pas non plus de frontière entre recherche académique et recherche privée. J'aime pas le mot privé, je préfère recherche industrielle. Et donc nous avons parmi nous Gerbet, qui est donc une PME qui fabrique des agents de contraste, des traceurs, qui vont nous permettre donc de, ensemble, développer des molécules qui vont être spécifiques de pathologies, par exemple Alzheimer, des plaques d'Alzheimer, mais en même temps porter un marqueur magnétique qui sera détectable sur nos images IRM. Et je vais m'arrêter ici. Merci.
Je vous remercie de cet exposé très brillant qui a montré encore une fois non seulement le rôle de la technologie informatique, mais également le rôle de la technologie des aimants, la participation de l'industrie privée. Monsieur Siemens est un grand fabricant d'aimants, semble-t-il, et le coût que cela coûte, mais également ce qui nous intéresse ici, les problèmes métaphysiques que cela pose. Vous avez vu qu'un certain nombre de recherches remettent en cause la définition de la mort clinique et du coma, et des problèmes de philosophie de la connaissance, c'est-à-dire des rapports entre la perception et l'intellection, si c'est le bon vocabulaire. C'est pour cela que nous avons demandé à notre collègue, Madame Barbantière-Selin, de bien vouloir rapidement, hélas, dire ce qu'elle pense de ces révolutions survenues, il faut le dire, en à peu près 10 ans.
Merci. Je ne suis pas sûre qu'il soit beaucoup question de mes...
Il faut appuyer sur le petit machin. Voilà. Non, en bas.
Merci. Bon, je ne suis pas sûre qu'il soit beaucoup question de métaphysique, encore que... ce qui est certain, c'est qu'évidemment, il est devenu populaire depuis les années 50 chez les philosophes des sciences et chez les philosophes de l'esprit, notamment de faire l'hypothèse d'un cérébroscope, c'est-à-dire une machine qui pourrait lire l'activité du cerveau, une activité que nous pourrions optimalement corréler avec telle ou telle connaissance ou telle ou telle cognition. Alors, vous savez que les philosophes sont friands de ces expériences de pensée parce que, évidemment, ça ne les fait pas beaucoup. Cela leur permet, sans quitter leur fauteuil, de faire toutes sortes d'expériences de pensée pour raisonner, par exemple, sur les problèmes de l'identité personnelle. Ou, puisqu'il y a, il a été question aussi de l'eau dans l'exposé de M. Le Bihan, sur, par exemple, l'identité d'une eau qui, sur une autre planète, aurait toutes les caractéristiques de notre bonne vieille eau, à la seule différence qu'elle ne serait pas composée d'H2O, mais de XYZ. Bon. Alors, l'une des questions que se posent les philosophes, évidemment, c'est celle de savoir si, et ils en rêvent tous, si un cérébroscope nous permettrait d'avoir accès à nos pensées réelles, ou seulement à la manifestation physique de nos pensées, ou peut-être au parallèle physique de nos pensées, ou bien est-ce que nous aurions affaire à quelque chose de totalement différent ? Donc vous voyez, c'est évidemment le rêve de répondre à des questions telles que bon, est-ce qu'en comparant les sorties, les outputs d'un cérébroscope, dans plusieurs individus ou dans le même individu sur la durée? Est-ce qu'on a affaire à de multiples manifestations de la même pensée, à de multiples manifestations de pensées différentes? Ou est-ce que, finalement, chacune de nos pensées est complètement différente de toutes les autres pensées? Et voilà que depuis quelques années, l'hypothèse a pris forme, la fiction est devenue réalité, et de quelle manière, comme vient de l'exposer brillamment Denis Le Bihan. Donc en mesurant les changements qu'on peut constater dans les réponses métaboliques de sujets occupés à des tâches cognitives, la neuroimagerie fournit un moyen rapide, sûr, non invasif et de haute résolution de regarder en quelque sorte notre cerveau au travail, notre espace de travail neuronal global. Bon. Alors cette combinaison de qualités a permis, sans aucun doute, et Denis Le Bihan l'a rappelé, de révolutionner la médecine, en même temps qu'elle a aussi soulevé, relativement à la médecine, un certain nombre de questions éthiques qui ne vont pas de soi, notamment concernant, par exemple, la définition que l'on peut donner de la douleur. Bon, on y reviendra peut-être. En tout cas, s'agissant des neurosciences, naturellement, et notamment de la psychologie cognitive, la neuroimagerie a été d'un apport considérable, puisqu'elle a fourni des outils cruciaux qui permettent de lier celle-ci avec les modèles traditionnels des neurosciences. Mais pour les philosophes aussi, la neuroimagerie est extrêmement importante, pas seulement d'ailleurs pour le courant de ce qu'on appelle la neurophilosophie, avec des auteurs qui sont plutôt partisans de ce qu'on appelle un matérialisme éliminatif, comme Patricia Churchland ou John Bickle, mais aussi parce que, au fond, la neuroimagerie semble ouvrir de nouvelles perspectives tout à fait prometteuse pour l'examen de problèmes philosophiques des plus traditionnels qui ont trait en particulier à la délibération morale, au choix rationnel, à la faiblesse de la volonté ou encore à la conscience, bref, à toute une série de questions, n'est-ce pas, qui ont évidemment beaucoup d'incidences éthiques et sociales. Alors, la question évidemment qu'on peut se poser, c'est si cet espoir est bien placé ou s'il est mal placé. Et qu'est-ce que l'on peut, de façon raisonnable, attendre de la neuroimagerie? Alors, comme on m'a demandé de discuter et d'être un petit peu polémique, je vais essayer de l'être dans la mesure de mes moyens. Et donc, je vais surtout signaler quelques difficultés qui me paraissent d'abord liées aux objets et aux méthodes de la neuroimagerie et qui, d'ailleurs, ont pu amener certains à conclure que, finalement, la neuroimagerie ne révolutionne rien du tout. Je montrerai que c'est faux et que la neuroimagerie a une importance non seulement thérapeutique, mais théorique et éthique extrêmement importante. Et j'indiquerai pour cette raison pourquoi il me semble que cela implique de notre part, à tous, un certain nombre de pistes qu'il faut essayer de suivre et de perspectives à envisager. Donc, rapidement, quelques difficultés que je vois de mon point de vue dans les méthodes de la neuroimagerie. Bon, d'abord, une première difficulté qui a trait tout simplement au fait que la neuroimagerie traite d'images. Bon. Or, chacun sait qu'une image n'est qu'une image, c'est-à-dire que tout commence, et Denis Le Bihan le dit lui-même, à partir du moment où vous commencez à interpréter les images. Wittgenstein disait « Je vois une image représentant un petit bonhomme remontant le long d'une pente, mais qu'est-ce qui m'empêche de penser qu'il est en train de la redescendre ? Tant que je n'ai pas la règle, l'image reste ambiguë. Si je dis « l'homme remonte la pente », je supprime l'ambiguïté, mais pas si je me contente de le dessiner. » Deuxième type de difficulté qui ont trait cette fois à la spécificité des neuroimages. Relativement d'ailleurs aux photographies, quand vous supprimez un élément d'une photographie, vous voyez assez rapidement, hein, quand vous faites un parallèle entre l'image contrôle et puis l'image dans laquelle quelque chose a été supprimé, vous voyez assez vite qu'est-ce qui a disparu. En revanche, et c'est un point sur lequel M. Berry a aussi insisté, dans le cas des neuroimages, on a affaire à des moyennes statistiques, à des images par ailleurs qui sont virtuelles et donc qui vous donnent d'une certaine façon le résultat de l'activité rapide du cerveau, c'est-à-dire une sorte d'instantané, mais pas, si vous voulez, le défilement exact du processus lui-même. Bon, alors, ceci m'amène à des difficultés de méthodologie qui ont souvent été signalées, d'abord par les propres acteurs de la neuroimagerie eux-mêmes, et puis notamment par les spécialistes de psychologie cognitive. Est-ce qu'on peut dire tout de go que des facteurs bold sont la même chose qu'une cognition, au moins au sens où on entend même que, au sens d'une réduction par identification? Deuxièmement, quelle est la part de données, de manipulation, voire de création de données? Il y a un art pour faire des images, et Dieu sait s'il... c'est un art pictural remarquable, comme on l'a vu. Et puis, il y a aussi un art pour les interpréter. Troisièmement, est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'utiliser des voxels comme outil d'analyse est quelque chose d'un petit peu artificiel? En quoi est-ce qu'un voxel est lié à quelque chose de particulier dans le cerveau? Après tout, on n'est pas obligé de penser qu'il découpe la nature aux bonnes articulations. Quatrièmement, et Monsieur Le Bihan l'a dit, il y a tout un problème relatif à la neuroimagerie qui a trait au décours temporel, qui est bien trop grand, alors que les potentiels d'action arrivent en millisecondes. On a, au fond, d'une certaine façon, que des clichés de la phase terminale. Bon. Je vais aller très très vite sur le point qui est en même temps un des points les plus importants sur lesquels Stanislas Dehaene a beaucoup insisté, c'est les difficultés relatives à la méthode de soustraction, qui est l'une des méthodes quand même importantes, même si ça n'est pas la seule, qui sont utilisées. Qu'est-ce qui vous permet de penser que vous n'avez pas soustrait un certain nombre de données cruciales? Est-ce que le cerveau, par exemple, ne fait rien quand il ne s'active pas sur l'écran? Bon, on peut pas vraiment conclure du fait que vous avez une tache sombre qui n'est pas allumée ou qu'une tache de lumière est allumée que le cerveau n'est pas en train de faire un autre travail dans le même temps. Bon. Donc, le problème, il y a toute une série de problèmes liés notamment à ceux qui essaient d'identifier la douleur, sur lesquels je n'entre pas, dont on pourra peut-être parler dans la discussion. Bref, toutes ces difficultés ont amené certains à avoir des conclusions extrêmement négatives concernant la pseudo-révolution de la neuroimagerie. Au fond, elle permet de voir beaucoup de choses, mais elle ne dit pas beaucoup plus que ce qu'on savait déjà par les investigations cliniques ou la psychologie. Bon, elles permettent de mieux localiser des réseaux, elles apportent une meilleure confirmation de la manière dont les choses se passent, mais il n'y a pas lieu de considérer que cela produise une immense rupture théorique ou conceptuelle. Au fond, elle ne fait que répéter ce qu'on savait déjà. Or, il me semble que ce serait tout à fait grave d'en rester à un constat aussi négatif, ce serait même désastreux à mon avis, de sous-estimer l'immense valeur qu'a la neuroimagerie, et je voudrais donc essayer de dire pourquoi. Il me semble qu'il y a une immense valeur, bon, je crois que c'est même pas la peine d'insister, thérapeutique, Monsieur Le Bihan l'a suffisamment dit, et il en est lui-même l'un des acteurs, une valeur de diagnostic et une valeur thérapeutique de la neuroimagerie qui permet non seulement une meilleure compréhension du fonctionnement du cerveau, mais évidemment de mieux contribuer à la santé, tout simplement, des personnes qui sont traitées. Quant à la valeur théorique, je crois qu'elle est aussi extrêmement importante à souligner. J'y reviendrai peut-être dans les suggestions que je voudrais donner pour finir. Il me semble que ce que on voit parfaitement dans le cadre de la neuroimagerie, c'est à quel point on a affaire à un système dont l'architecture est extrêmement complexe et qui suppose donc que pour la faire parler, nous soyons extrêmement attentifs aux détails. Il faut une analyse de détails, et cela veut peut-être dire que le modèle à suivre pour les neurosciences n'est peut-être pas le même modèle que celui que suivent les sciences physiques, c'est-à-dire qu'il faut peut-être aller plus dans l'examen du détail que dans des procédures de généralisation. Bon, alors, je voulais dire maintenant quels sont les difficultés, enfin les valeurs que je vois, mais en même temps les difficultés aussi que éthiques et sociales que pose évidemment l'imagerie, c'est que vous comprenez bien qu'étant donné le type d'interprétation que vous allez donner des images, et je crois que c'est un point là encore sur lequel M. Le Bihan, à d'autres occasions, a beaucoup insisté, vous pouvez arriver à des conséquences éthiques extrêmement importantes sur la manière, par exemple, dont vous interprétez certaines manifestations de la douleur, ou sur la manière dont vous induisez un certain nombre de choses de ce que vous voyez sur l'écran, et sur les corrélations que vous faites concernant les différents processus mentaux qui sont à l'œuvre à partir de l'activité cérébrale elle-même. Bon, chacun sait par exemple que jusqu'à une date relativement récente, on identifiait la douleur essentiellement à un phénomène psychologique, à une expérience de la douleur, à la qualité phénoménale en quelque sorte de la douleur. Dans certains pays, l'IRM a été utilisé pour montrer qu'en définitive, eh bien, à partir du moment où on a même demandé à certains scientifiques d'utiliser l'IRM pour diagnostiquer en quelque sorte si le patient avait ou pas vraiment mal. C'est pas, si on voyait rien qui s'active sur le petit écran, ça voulait dire qu'en un sens, il ne souffrait pas. Donc vous voyez évidemment toutes les incidences éthiques et sociales que cela pose si vous considérez que vous évaluez, par exemple, la douleur uniquement à ses traces physiques sur un appareil et non pas, par exemple, à la dimension phénoménale de l'expérience de douleur. Si c'était le cas, par exemple, cela bouleverserait complètement une idée chère aux philosophes, qui est que d'une certaine façon, la douleur, c'est quelque chose qui est une sorte de principe analytique, au sens où lorsque vous avez mal, eh bien, vous avez mal. Et un point, c'est tout. Il y a quelque chose, si vous voulez, là encore, je rappellerai ce que disait Wittgenstein, il disait, au fond, quelqu'un qui a mal, c'est absurde de lui demander s'il sait qu'il a mal. Vous ne dites pas « je sais que j'ai mal ». J'ai mal, vous ne dites « je sais que j'ai mal » uniquement à quelqu'un qui met en doute votre douleur. Bon, au sens où, si vous voulez, il y aurait comme une espèce d'évidence absolue de l'expérience phénoménale de la douleur. Vous comprenez bien que si on utilise le cérébroscope pour identifier tous les états mentaux à des états cérébraux, toute une série de questions se posent. Alors, je terminerai sur quelques suggestions de méthodes, me semble-t-il, face à ces difficultés que nous aurions intérêt peut-être à suivre. Je pense qu'il est très, très important de comprendre, et là, peut-être que le philosophe des sciences et de la connaissance a peut-être quelques petites choses à dire là-dessus, il est très, très important de comprendre, premièrement, lorsque nous faisons des corrélations, ce que nous entendons par les corrélations, est-ce que nous entendons que ces corrélations entre les états cérébraux et les états mentaux sont des corrélations auxquelles nous pouvons appliquer une déduction ? Si c'est le cas, à mon avis, c'est extrêmement dangereux. Nous avons certainement un réquisit trop fort. Est-ce qu'on peut utiliser, après tout, et je crois que c'est le plus souvent ainsi que les résultats sont utilisés, Dieu merci, en neuroimagerie, c'est-à-dire pour établir des modèles de consistance qui nous permettent de prédire. Une théorie, ce n'est jamais quelque chose qui se passe dans le vide, n'est-ce pas ? Donc, pour prédire quelle serait, au fond, la meilleure hypothèse. Bon, mais là encore, le problème, c'est qu'on se heurte, là, n'importe quel étudiant de première année en philosophie des sciences le sait, au problème du falsificationnisme, c'est-à-dire vous pouvez savoir comment une hypothèse est fausse si vous rencontrez l'expérience et qu'à un moment donné, l'expérience vous montre que la théorie ne peut pas marcher. En revanche, lorsque vous avez affaire à des théories qui rendent compte des données de la même manière, mais qui sont pourtant contradictoires, rien ne vous permet finalement de trancher. Quelle est la bonne ? Et donc là, il me semble que l'honnêteté intellectuelle est de considérer qu'on est face à une impasse. Bon. Alors, je pense que, de ce point de vue, une troisième méthode me semble être préférable, et c'est d'ailleurs souvent celle qui est utilisée, c'est plutôt une méthode qui s'appuie sur un modèle bayésien probabiliste, où on essaie, au fond, de voir si notre théorie est vraie, Il y a des chances pour que l'hypothèse que l'on rencontre soit la bonne. Bon, et si, d'une certaine façon, on teste la validité de l'hypothèse à son degré de probabilité. Mais là encore, il faut être extrêmement prudent parce que quand on entre dans les degrés de probabilité, on a affaire encore à un instrument de mesure qui n'est pas non plus tout à fait sûr. Bon, pour terminer, je dirais, il me semble que ce que montrent les difficultés d'interprétation du modèle de la neuroimagerie, c'est que, premièrement, il me semble qu'on a intérêt méthodologiquement à faire prévaloir un modèle plutôt exploratoire dans certaines sciences, peut-être, qu'un modèle de confirmation, un modèle qui dont aille plus du côté des hypothèses que du côté des données. Deuxièmement, un modèle qui s'occupe un peu plus que dans d'autres sciences, là encore, du soin du détail, plutôt que du côté des généralisations. Troisièmement, il me semble que, et c'est peut-être là que le philosophe peut apporter sa contribution, il est extrêmement important de développer ce que j'appellerais une sorte d'ontologie cognitive et de déterminer, au fond, quelles sont non seulement les corrélations entre les zones d'activité cérébrale et les types d'activité mentale, mais exactement de quoi on parle quand on a affaire à un type d'activité mentale. Est-ce que c'est un processus? Est-ce que c'est une information, etc. Donc, vous voyez, ça, c'est quelque chose qui me semble très important. Ce que cela veut dire, et je conclurai là-dessus, c'est que je crois qu'il est possible que nous n'ayons pas découvert le cérébroscope, et il est possible aussi et même souhaitable qu'il faille envisager une collaboration interdisciplinaire dynamique entre les différents domaines du savoir, domaine dont je n'exclus pas du tout les philosophes, on l'aura compris. Je dirais que, exactement comme Harrison disait, au fond, il est clair qu'il y a beaucoup de travail conceptuel à mener avant de faire chauffer le scanner. Eh bien, de la même manière, il est tout aussi urgent pour les philosophes d'accepter de quitter de temps à autre leur fauteuil, ce qui, du reste, ne pourra que leur faire le plus grand bien.